Le texte que nous venons de lire est un texte de promesse et d'encouragement destiné aux Corinthiens. En effet, Paul exhorte ces derniers à prendre part à une grande collecte faite en faveur des chrétiens pauvres de Palestine. Il s'agit d'offrir un soutien financier pour des frères dans la détresse. Paul décrit cet acte au début du chapitre 8 comme une assistance en faveur des saints. Vous l'aurez compris ce matin, nous allons parler d'argent. Je sens déjà frémir un malaise. En effet, dans notre société dite judéo-chrétienne, et peut-être aussi dans notre pays, parler d'argent met souvent mal à l'aise. La relation à l'argent diffère complètement d'une personne à une autre. La culture, l'éducation, le vécu, l'histoire personnelle, tout cela nous façonne et nous amène à réagir bien différemment sur les questions d'argent. Le texte de ce matin nous incite à y réfléchir. Réfléchir sur comment l'utilise-t-on, plus précisément sur le don à Dieu. Comment Dieu nous demande-t-il d'utiliser nos richesses ? Paul ne propose pas une thérapie pour améliorer notre relation à l'argent. Mais le ton du texte et sa richesse nous amènent à réfléchir sur la nature de ce don, l'état d'esprit qui est demandé aux chrétiens et ce qui en découle pour notre pratique de l'offrande. Et enfin, la promesse de l'abondance de la grâce de Dieu. La première notion forte qui ressort de ce texte, c'est ce que l'on appelle la libéralité. La libéralité, c'est la disposition à donner généreusement. C'est un don généreux qui vient du cœur. La libéralité fait d'ailleurs partie des dons spirituels du chrétien que l'on retrouve dans Romains 12. Je relis le verset 6 de notre texte. « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. » Paul exhorte ses frères de Corinthe à donner généreusement pour que cela porte du fruit. En d'autres termes, il ne faut pas faire les choses en petit, car sinon ce que l'on récolte sera proportionnel. Comme on pourrait le traduire de manière populaire, il faut mettre la main au portefeuille, ne pas regarder à la dépense. Mais je trouve que le terme de libéralité ne rend pas totalement justice à ce que Paul veut nous enseigner. En effet, il va plus loin. Relisons le verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Sans tristesse ni contrainte, mais avec joie. Paul va jusqu'à décrire précisément dans quel état d'esprit Dieu nous demande d'être quand nous nous apprêtons à faire notre offrande. Il ne s'agit pas juste de mettre la main au portefeuille, comme on l'a dit tout à l'heure. Avant qu'il y ait un geste, une action, il faut que cela passe par la pensée, une réflexion, ou en tout cas, une prise de conscience de donner sans obligation, sans contrainte, sans regret. On retrouve ces trois termes dans les différentes versions. Obligation, contrainte, regret. Nous devons nous examiner afin d'être sûrs de cet état d'esprit. Puis après en avoir pris conscience, cela passe par le cœur. Il faut donner avec joie, sans tristesse. Voilà qui étoffe le simple mot de libéralité. Et celui qui possède ce don distribuera ce qu'il peut avec joie, s'y sentant comme poussé par un appel intérieur. Se séparer d'une partie de ses biens avec le sentiment d'accomplir un des buts de sa vie, d'être dans l'obéissance à ce que Dieu attend de lui. Donner avec joie, de bon cœur, implique aussi qu'il faut être conscient de ce que nous possédons pour nous en détacher. avoir un regard réaliste sur l'ensemble de nos biens, nos richesses, les connaître, reconnaître que nous avons en abondance et en être plein de reconnaissance. Cela suppose aussi d'avoir un œil de compassion sur le monde qui souffre, s'inquiéter de l'autre, sur ce qu'il possède ou ne possède pas. Une fois que nous avons regardé ces deux réalités en face, celle de nos ressources réelles et celle des besoins de nos frères, alors nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu par un don honnête, sans contrainte et avec joie. Au chapitre 8, Paul écrit déjà aux Corinthiens sur le thème de la collecte et il utilise alors l'expression « simplicité de cœur » pour qualifier l'état d'esprit du don. On trouve ici l'idée de ne pas calculer, ne pas regarder à l'avenir, aux conséquences, avec crainte. Ne pas mesurer ce que l'on aura en moins, mais regarder au Seigneur et aux besoins des autres. Donner simplement, sans sentiment de perdre quelque chose, sans sentiment d'obligation. Pour moi, la simplicité de cœur se rapproche aussi du fait de le faire humblement. Dans Matthieu 6, au verset 3, Jésus dit « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. » L'idée n'est pas ici de se voiler la face, de se mentir ou de manquer de conscience, non. J'y vois plutôt l'idée de ne pas s'élever dans le sentiment de générosité, s'enorgueillir de ce que l'on peut offrir, ne pas en faire un pouvoir et du coup ne pas en attendre une contrepartie. Là, nous serions vraiment dans un état d'esprit contraire à cet enseignement. La deuxième chose importante que l'on retient de ce texte, c'est qu'il évoque les promesses de Dieu pour les hommes généreux. Si notre don revêt l'aspect et l'état d'esprit décrit plus haut, alors écoutez ce que cela entraîne. Voilà les mots relevés dans le texte. Les mots « combler »,« abondance »,« il fournira »,« il multipliera », »,« il augmentera ». Le mot « enrichi ». Le don tel que décrit plus haut est un don dynamique, un cercle vertueux. Dieu fait la promesse de faire prospérer le don au-delà de ce qui est attendu. Le postulat de base est déjà que Dieu comble tous nos besoins du quotidien, le nécessaire. Il satisfait nos besoins élémentaires ou besoins de base pour une vie sereine. C'est ce que nous lisons au verset 8. Disposant de tout le nécessaire. Mais en plus, il promet d'être enrichi à tous égards afin de pouvoir contribuer au bien des autres, de notre frère, de notre prochain. Une fois comblés nos besoins, Dieu promet qu'il restera de quoi donner, de quoi partager. Pour moi, ces paroles ne concernent pas seulement un don pécunier. On peut penser, en lisant les passages suivants, qu'il nous comble de bienfaits que nous pouvons faire fructifier afin d'enrichir ceux qui sont autour de nous. Je pense bien sûr aux dons spirituels que chacun d'entre nous possédons. En effet, au verset 10, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. » Dieu promet de faire fructifier ce que nous voulons bien donner aux autres. Pour moi, cela veut dire que tout ce que nous voulons bien investir de nous pour le prochain, c'est un don gagnant qui va produire du fruit. Si je reprends notre texte, alors Paul illustre cela par le verset 12. Cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Cela doit nous donner confiance en la puissance de Dieu. Notre don, quel soit-il, est confié entre ses mains puissantes. Je trouve que cela rend nos actions généreuses moins banales et riches de promesses. Dieu a le pouvoir. Bien sûr, l'état d'esprit dans lequel nous faisons notre don reste primordial, comme nous l'avons vu en premier. Mais enfin, c'est une démarche de foi. Foi en la grâce profonde de Dieu, en son pouvoir de l'abondance. Je reprendrai le verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans contrainte. Paul incite maintenant les Corinthiens au don, mais dans un grand respect de leur liberté de choix. Il n'édicte pas de règles, il ne donne pas une marche à suivre, ou une mesure définie, une échelle de combien donner, comment, la fréquence. Il respecte la grande liberté du cœur, si ce cœur est attaché à Dieu. Paul aurait pu en appeler à son autorité, reconnue par ses lecteurs par les lecteurs de ses épîtres, pour appuyer le projet de collecte. Il pouvait institutionnaliser le don, mettre en place la dîme. Paul aurait pu éditer toutes les règles à suivre pour encadrer ce service fraternel, et cela aurait été suivi scrupuleusement dans chaque église où il intervenait. Mais non. Il préfère les laisser libres. Il en appelle au cœur, à la foi, à l'esprit qui doit donner le discernement. Le don serait dénaturé si on lui ôtait sa liberté, sa parfaite spontanéité, cette idée qu'il vient d'un élan du cœur. L'esprit fait naître le sentiment de vraie générosité par l'amour de Dieu. Afin de rendre concrètes les notions du don pour les Corinthiens, Paul utilise un parallèle entre offrande et semence. Il utilise l'image de la croissance du blé, de l'abondance de la moisson, pour faire comprendre ce cercle vertueux dont on parlait précédemment. Ce n'est pas anodin, ce parallèle avec la semence. Cela n'est pas sans rappeler les nombreuses paraboles de Jésus sur le thème de la semence et de la moisson. Jésus utilisait cette image pour faire comprendre la notion de parole de Dieu qui est semée, ou du royaume à annoncer. Le semeur sème la parole et cela donne des fruits selon l'endroit où il est semé. Le champ symbolise le monde ou le cœur des hommes. La moisson est la récolte des fruits pour le royaume de Dieu. On peut multiplier les exemples sur ce thème. Mais ici, pourquoi Paul fait ce parallèle ? On peut bien sûr penser qu'en récoltant des fonds pour aider la croissance de l'Église, cela propagera la parole, la communauté sera aidée, renforcée et plus prête et mobilisée pour croître et faire des disciples. Mais je ne suis pas sûre que cela soit le sens du message de Paul. L'image de la semence me fait penser à la confiance que l'on doit avoir en la récolte. Cela relève de la foi, de lâcher ce qui nous a été donné par grâce. Cela ne nous appartient pas vraiment finalement. C'est un retour à Dieu de ce qu'il nous a confié. C'est avoir la foi dans cette grâce infinie de l'amour de Dieu. Avoir foi que Dieu a le pouvoir de faire fructifier notre don. Cela aura un impact, peut-être ou peut-être pas, mais Dieu est plus grand pour savoir ce qu'il va en faire et le multiplier au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Dieu a le pouvoir et non l'homme. Il nous faut juste lâcher. On ne saura pas ce que cela va devenir. Dieu a le pouvoir sur toutes les choses que nous lui confions. pour terminer ce moment de réflexion sur le don généreux, libre et plein de foi, je voudrais vous raconter une petite histoire vraie qui parle de l'image qui va suivre. Peut-être la reconnaissez-vous ? Vous avez trouvé ? Il s'agit d'une affiche d'un film. C'est l'affiche du film Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rapneau. Au moment de commencer le tournage, le réalisateur et son équipe cherchaient le moyen d'illustrer l'acte 4 de cette pièce, avec une image forte mais assez réaliste pour être filmée. L'action se situe pendant le siège d'Arras en 1640. Les assiégeants d'Arras, l'armée du roi de France dont Cyrano fait partie, sont eux-mêmes assiégés par les Espagnols venus pour défendre la ville. Cyrano doit traverser tous les jours les lignes ennemies afin de porter des lettres d'amour à Roxane. Il doit donc traverser ces lignes en ne se faisant pas prendre, mais comment illustrer cette scène de manière cinématographique. Jean-Paul Rapneau a l'idée de lui faire traverser un champ de blé qui serait assez haut pour le camoufler de ses ennemis. Le problème, c'est que les blés produits alors en France ne dépassent pas le mètre en hauteur et il est alors difficile de s'y cacher. Après des recherches, toute l'équipe technique obtient l'information que les semences anciennes donnent un blé beaucoup plus haut que ce que nous connaissons. Alors, cette équipe se met en quête de telles semences. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris possède un sac de semences datant du Moyen-Âge et le donne généreusement pour les besoins du film. L'équipe technique ensemence un champ sur le lieu de tournage en Hongrie. Ils attendent patiemment que cela pousse. Et oui, la hauteur du blé est proche d'1,50 m. On peut alors mettre en scène plus facilement ce que désire faire le réalisateur, un Cyrano qui est en partie caché par les blés. Le réalisateur fera d'ailleurs de cette scène l'affiche du film. Après le tournage, la moisson a eu lieu. Et le réalisateur a pu ramener au Muséum d'Histoire Naturelle une grande quantité de sacs de blé pleins de cette semence ancienne. Donner, c'est lâcher ce que l'on a de précieux. Le considérer comme apportant plus de bénéfices à l'autre qu'à soi-même. Donner, c'est prendre un risque. Mais c'est aussi regarder vers Dieu qui a le pouvoir sur tout ce que nous lui confions.